Les accros du vendredi, on commence par, écoutez, on débat avec vous sur l'engagement pris par Radio-Canada. C'est très ambitieux. Pour plus de diversité avec un objectif précis d'ici 2025.
Oui, alors c'est Catherine Tate, la nouvelle PDG, qui exige ça, en tout cas d'ici 2025. Au moins un des postes clés dans chacune des émissions va devoir être occupé par une personne qui est issue de la diversité. Et là, je parle minorité visible, autochtone, personne handicapée et membre de la communauté LGBTQ2+. Et ça, quand on dit une personne clé, là, on parle de producteur, réalisateur, auteur, producteur et interprète principal. Donc, il y a au moins un de ces cinq-là qui va devoir être une des minorités. Moi, écoute, on peut pas être contre ça, Thérèse, hein? Parce que la parité homme-femme a été atteinte, même que 62% sont des femmes là, dans la dernière saison. Donc, on a dépassé la parité.
Oui.
C'est mieux que le parti de Maxime Bernier.
C'est pas mieux, oui. Lui, on ne peut même pas revirer chiffre à l'envers. On n'arrive pas au bon chiffre.
Il
n'y
a pas rien à faire.
Mais là, on s'en va vraiment du côté de la diversité. Puis, tu sais, on en a beaucoup parlé dans les dernières années. On dit qu'il n'y a pas assez de diversité dans nos séries puis dans nos fictions et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il faut provoquer les choses. Par contre, comment on va appliquer ça?
Comment on va appliquer ça? Ça, c'est la bonne question. Tu dis un des postes clés de création dans toutes les émissions, scénarisé ou factuel, commandé.
Oui.
Ça veut dire qu'il faut que tu aies un producteur, un réalisateur, un auteur, producteur, un interprète principal, un de ceux-là qui soit issu de, évidemment, de la communauté. Moi, la seule chose de la diversité, la seule chose qui m'a je me sens enfargée dans le communiqué, moi, à une place, où ça dit « Quand le réservoir de talent ne sera pas suffisant, le diffuseur public attendra des producteurs indépendants qu'ils s'engagent à encadrer ou à former au moins une personne issue de la diversité pour occuper un poste clé de création dans la production d'une émission commandée. »
Parce que ça va arriver, là. Ça va arriver qu'il n'y en aura pas.
Ben, ça va arriver qu'il n'y en aura pas, mais c'est parce que tu vas te mettre à former des gens, alors que si tu te retournes, à côté de toi, tu as 12 personnes qui attendent le poste. Mais là, tu vas être obligé de te retourner et de dire « Je suis désolé, les 12, parce que ça prend quelqu'un issu de la diversité. On va aller en former un. Vous autres, attendez votre tour. » Ça, tu vois, je me suis enfargé là-dedans, puis ça m'a fait un petit peu mal.
Moi, je suis sûr que les producteurs, quand ils ont appris ça, ils ont commencé à se gratter la tête. Puis ils se sont dit, ça sera pas évident, là. Il va falloir qu'on commence tout de suite à chercher des gens parce qu'on va pas nécessairement en trouver. Puis comme je te dis, le fond de tout ça est bon. Dans le sens qu'il faut. Tu sais, moi,
on a demandé la parité homme-femme. On l'a demandé. Puis dans certains cas, on l'a eu. On l'a pas partout, mais on l'a eu. Et je me dis, bon, tu peux demander. Mais là, en matière de diversité, c'est que. Moi, je te le dis, là, former des gens quand tu as des gens déjà compétents sur place, mais pour une raison ou pour une autre, ça te prend quelqu'un qui est d'une minorité visible, qui est du milieu autochtone, handicapé ou membre de la communauté LGBTQ2+.
Oui, mais justement, là, le membre de la communauté LGBTQ2+, les autres, c'est évident. Tu sais, autochtone, tu le sais, personne handicapée, c'est assez clair aussi.
Absolument.
Quoi que ça peut comprendre, il doit avoir un spectre très large là dans les personnes handicapées. Hein. Mais communauté LGBTQ2+, il faut que ça soit écrit quelque part. Il faut que, tu sais, c'est pas reconnaissable tout de suite là. Tu comprends? Il faut que quelqu'un ait rempli un questionnaire et qu'il ait coché « oui, je suis gay, je suis bi, je suis transgenre, je suis… » etc.
Ouais.
Donc ça, là…
Il faut l'identifier, la personne.
Ben oui, exactement. Donc ça sera pas évident.
Non seulement ça sera pas évident, mais dans la vie, est-ce que tu es obligé de dire, par exemple… Moi, est-ce que je suis obligé de dire que je suis hétéro, mettons?
Oui, mais
est-ce que
c'est
une obligation?
Oui, mais Thérèse, ça vient… contredire à 180 degrés ce que les gens ne veulent pas lorsqu'ils postulent pour un emploi, se faire demander des questions personnelles comme ça. C'est ça l'affaire.
Oui.
C'est que à un moment donné là, c'est le monde à l'envers. Avant, quelqu'un à qui on aurait demandé vous, Madame Parisien, quelle est votre orientation sexuelle? Je dirais, c'est pas de vos maudites affaires. Pour l'engagement, non?
Ben,
tandis que là,
oui.
Ben oui, mais là, va
mais
falloir,
là,
comme Richard
là,
dit...
Là, il faut que tu le dises, il va falloir que tu le dises.
Il va falloir le dire pour espérer obtenir l'emploi.
Donc, si t'as pas fait, mettons quelqu'un aurait pas fait son coming out.
Oui.
Il va falloir qu'il fasse son coming out pour avoir un
poste. Ou bien, il fera pas partie d'une minorité. Puis là, on pourra pas le choisir pour un des cinq postes clés.
Qui va déterminer ça,
c'est
hors de tout doute?
C'est toutes des questions que moi, je pense que ça va être un gros casse-tête. Puis, tu sais, vous parlez de ça, c'est sûr que ça fait partie de la vie privée. Idéalement, ça devrait pas faire partie de la vie privée plus que d'être hétéro, que d'être gay, tout ça. Mais on sait qu'en 2019, c'est pas encore ça, là.
Mm-hmm.
Ça fait encore partie de la vie privée. Et je pense pas que tout le monde a envie que ce soit clair quand on est engagé.
Peut-être,
c'est ce que
je te dis. T'as peut-être raison là-dessus.
C'est ce que je te dis, Richard. C'est à l'inverse de ce qu'on essaie de défendre depuis des années en disant votre orientation sexuelle, votre choix de vie ne devrait pas s'immiscer dans un processus pour postuler un emploi.
Mm-hmm.
Là, on dit le contraire.
Ouais, mais
exactement.
Le contraire.
Non seulement on dit le contraire, mais t'as pas le choix, là. T'auras pas le choix. Si tu veux un job, tu comprends si tu veux. Mais écoute, on peut pas être contre ça, mais on peut se poser des questions, s'interroger. Puis peut-être, parce que quand on dit là, quand le réservoir de talent ne sera pas suffisant,
ça
le diffuseur
fatigue, ça
attendra des producteurs indépendants qu'ils forment au moins une personne issue de la diversité.
Alors,
j'ai hâte de voir ça.
Le moment
j'ai
de
juste
la
hâte de voir l'application.
Les accros. Le moment accro de la semaine.
Alors, ça a été une belle semaine de sport, Paul.
Oh, hein? C'est incroyable.
Vraiment, des
avec
histoires,
soir,
des contes de fées.
Oui, oui.
On écoute ce qui nous a fait vibrer cette semaine.
Just inbound, and that's it. There's a new NBA champion, and it's a team from Toronto, Canada. We the North are now we the champions, the Raptors, the 2019 NBA champs.
J'en ai encore des frissons.
Ça donne des frissons,
j'en
mais moi, c'est pour ça.
Écoute,
c'est dans ce temps-là que j'aime le sport.
Ça aurait été une équipe de ballon chasseur qu'on aurait capoté pareil.
Oh non, il n'y a plus le droit. On a plus le droit de jouer au ballon chasseur.
Crois-moi, ça aurait été.
Il y a une spécialiste de l'Université de Colombie-Britannique qui a dit que c'était un jeu violent et
meurtrier. On aurait été content pareil.
Mais là, cette semaine, tout le monde s'intéressait au basketball. Ça a fait 427 000 téléspectateurs
ça,
à RDS
ça,
hier.
C'est
un record, Paul. C'est jamais arrivé.
Et ça finit tard.
Ça finit
il était
minuit.
Pratiquement minuit.
C'est ça.
Ouais.
Et pour les Blues, une autre belle histoire qui n'avait jamais eu de coupe. Cette année. Il fallait voir ça aussi. 847 000 à TVA Sports mercredi.
Beaucoup.
Donc, il y avait beaucoup de monde devant leur télé pour les sports cette semaine.
C'était une belle grosse semaine de sport et d'émotions et de tout ce que tu voudras.
Est-ce qu'on a le temps de parler de Netflix
sûrement,
un petit peu?
Sûrement, peut-être. Une couple de suggestions pour demain.
When They See Us, qui est la série la plus regardée en ce moment sur Netflix, Dans leur regard, en français. 4 épisodes. Il ne fera pas beau demain, là. Ça va être parfait pour regarder la télé. C'est une série de 4 épisodes, mais à regarder à petite dose. Ça concerne un fait divers qui a fait beaucoup, beaucoup jaser en 1989, l'affaire Trisha Mayle sur la joggeuse de Central Park. Il y avait eu la condamnation de 5 adolescents noirs et latinos. Et ça, évidemment, par erreur, mais quand on dit par erreur, ils ont inventé des preuves. Là,
et vous allez vous mordre le front. Je vous le dis, là, vraiment.
C'est une histoire, c'était horrible.
C'est une histoire horrible et la série est assez...
Tout avait été manipulé pour cibler directement les 5 suspects en question qui n'avaient rien à voir.
Oui, Chantal Guy en parlait dans la presse ce matin, puis elle disait qu'on sort de chaque épisode là, en maudit tellement
absolument.
Que ça
je vous dis ça comme ça aussi, si vous avez suivi Jessica Jones, eh bien, la saison 3, parce qu'il n'y a plus, c'est le dernier vestige de Marvel chez Netflix, saison 3, puis là, on va avoir une vraie fin, et elle va avoir un nouveau rival cette année, Greg Salinger.
Bon.
Si vous aimez les comics Marvels, là, c'est Fool Killer, en fait.
Full killer.
Oui, oui, oui.
Alors, j'espère, Richard, que vous ne sortez pas d'ici en maudit.
Non, pas du tout.
Parce que c'est la
très
fin
heureux.
De semaine, Richard.
Oui.
C'est la fin de semaine.
Voilà.
Alors, profitez-en et revenez-nous lundi.
À lundi.
Parce que Mme Parisien et moi, on va se payer une petite traite. On va revenir à Groovy Aardvark.
Oui.
Et bon, ça nous rappelle, il y a une ère d'années 80.
Oui.
Parce que c'était là la fondation du groupe
86.
Punk.
86. J'ai des faux pas qui meurent bien dans ma maison. Alors le petit bonheur.
Quel souvenir. Et il remonte sur scène au Francofolie le 21 juin.
Il y avait une chanson. Mais j'aurais.